France Musique.
L'Orchestre symphonique de Baltimore licencie une flûtiste qui a partagé des théories complotistes sur le Covid. C'est un article à lire dans Diapason Magazine. La musicienne Emily Scala, qui a partagé des informations erronées sur les médias sociaux, a aussi négligé de se soumettre au protocole sanitaire en vigueur. Elle faisait aussi partie de ceux qui contestaient le résultat de l'élection présidentielle américaine l'année dernière. Emily Scala, 59 ans, première flûtiste de l'Orchestre de Baltimore depuis plus de 30 ans, avait publié des messages mettant en doute l'efficacité des vaccins et des masques. Dans d'autres publications sur les réseaux sociaux, elle partageait également des théories laissant entendre que le coronavirus était responsable de la pandémie et aurait été créé dans un laboratoire de Caroline du Nord. Suffisant pour mener à un licenciement ? Dans un communiqué, l'orchestre indique qu'il renvoie Madame Scala parce qu'elle a violé à plusieurs reprises le règlement. Retour en France, un article du journal Le Monde avec 100% rock, une nouvelle ligne pour relancer le Bataclan. La ville de Paris va revenir à une programmation simple dans l'espoir de ramener à l'équilibre financier une salle meurtrie par les attentats. La nouvelle stratégie choisie pour le Bataclan est aussi simple que certaines lignes de basse. En aura-t-elle l'efficacité? C'est ce qu'espère Anne Hidalgo, son équipe et les dirigeants du géant américain AEG, numéro 2 mondial dans la gestion des salles de concert. Ils ont signé ensemble en juillet l'achat que le groupe Lagardère avait mis en vente l'an dernier, l'achat de la salle historique du boulevard Voltaire à Paris. Alors, comment relancer le Bataclan? D'abord en affirmant sa vocation, celle d'une salle de spectacle comme c'est le cas depuis son inauguration en 1865, c'est-à-dire renouer avec les grandes heures rock des années 75 à 2000 lorsque Lou Reed, Téléphone, Prince ou encore Marilyn Manson enflammaient le Bataclan. Il doit laisser la chanson française et les musiques urbaines à ses concurrents pour s'imposer comme la grande salle mythique du rock en France et ainsi fidéliser le public et mieux remplir la salle. Et puis, Les Échos ce matin nous apprend que le 25 septembre, si le virus ne trouble pas la fête, 20 000 fans munis de leur passe sanitaire seront accueillis au Champ de Mars à Paris pour un concert caritatif exceptionnel, le Global Citizen Live, organisé par le Live Nation France. Pour la première fois, c'est Paris qui recevra ce spectacle qui sera donné et retransmis donc en direct également à New York et Lagos et partout dans le monde pendant 24 heures sur les télés, radios et autres plateformes. L'ONG aux 10 millions de militants veut sensibiliser dirigeants, entreprises, fondations publiques à la lutte contre la pauvreté, la faim et la pandémie. Et c'est une sorte de mécénat de compétences pour nous, nous disent-ils. Les artistes ne prennent pas de cachet non plus pour ce concert. Nous recherchons des partenaires sponsors pour payer les techniciens et la logistique. Rendez-vous donc vers la Tour Eiffel le 25 septembre avec les musiques de Ed Sheeran, Billie Eilish ou encore Metallica, DJ Snake, Black Eyed Peas ou encore Christine and the Queens et Angélique Kidjo. Ce soir, c'est la première date du festival Novice Concert Passion, un rendez-vous créé cette année par la pianiste Roberte Mamou. Un pari fou que de créer un événement culturel programmé cet été entre la troisième vague et la quatrième. Alors que certaines grosses institutions comme le Hellfest ou Solidays ont annulé leurs éditions cette année, eh bien certains musiciens, ou passionnés de musique en tout cas, ont tenté l'aventure et ne regrettent pas. Ils se sont confiés à Marie Jiquel.
Monter un festival, l'été le plus incertain.
Je vais vous dire d'abord, j'aime le danger. Donc je suis quelqu'un qui adore aller au-devant des choses difficiles.
N'a pas effrayé Roberte Mamou, pianiste et désormais fondatrice de Concert Passion. Après une année à se morfondre sans concert, elle rattrape sa boulimie de la scène avec ce festival qui réunit une quinzaine de musiciens autour de Mozart, Chopin ou Ravel entre autres. Un rendez-vous vital pour l'artiste.
L'espace attirant qu'est la scène, avec les lumières dans les yeux, avec le froid, la boue, les quintes de tout, le programme que les gens froissent et le retardataire qui arrive dans la mesure la plus intéressante de Schubert. Voilà, les fauteuils gris, rouges, tout ce que vous voulez. Mais il fallait attendre. Et c'était vraiment une très grande tristesse.
C'est aussi pendant son confinement près d'Aix-en-Provence que l'envie de réunir musiciens et festivaliers a démangé le pianiste Christophe Bucudjian.
Pendant ce confinement, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal marché, j'ai découvert un lieu et tout d'un coup j'ai eu comme une forme de révélation, de coup de cœur où je me suis dit mais il faut absolument faire un festival ici. Et effectivement, quand je dis que c'est paradoxal, c'est que je pense pas que j'aurais eu l'énergie de le faire si j'avais pas été justement dans ces conditions de confinement, de solitude, d'introspection, on va dire, et de manque aussi forcément, parce que comme je suis pianiste et que là j'étais en situation où je jouais plus. Et je crois que le manque a provoqué le désir en fait.
Une idée sur une feuille blanche, un investissement financier personnel, quelques subventions, et voici Christophe Bucudjian, un an plus tard, à la tête des musicales de la Route Cézanne. Le festival s'est déroulé sans souci et avec passe sanitaire à la fin juillet, un pari auquel peu de gens croyaient.
Certaines personnes me décourageaient, me disaient « mais t'es fou, attends un an, tu prends trop de risques, etc. » Et au fond de moi, je me suis dit « non, forcément, on va y arriver. » Puis l'été, quand même, on avait quand même un peu moins de risques d'annulation, en plein été. Je me suis dit qu'il n'y a pas de raison. Donc j'ai eu confiance jusqu'au bout, en fait. Et puis ça a fonctionné. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments, quand même, forcément, des moments d'inquiétude.
Double difficulté pour le Dinar Opening, un festival consacré aux musiques franco-britanniques qui devait faire face aux contraintes sanitaires et aux Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est tombée au même moment que l'apparition du virus. Vincent Rémy est adjoint à la culture de la ville de Dinard.
Créer un festival de musique britannique à un moment où les artistes britanniques ne peuvent pas venir jouer en France, c'était un défi. C'est pour la raison pour laquelle nous avons demandé à Jane Birkin d'être marraine du festival. Elle est anglaise. Et nous avons trouvé des groupes breton ou français avec une composante anglaise ou écossaise.
Ces festivals valeurs ont survécu. Leurs fondateurs, intrépides et soulagés, pourront souffler dès septembre et réfléchir aux secondes éditions.
Un reportage de Marie Jiquel à retrouver et réécouter sur notre site francemusique.fr. Et l'un des ensembles invités aux rencontres franco-britanniques de Dinard, eh bien, c'est l'Orchestre National de Bretagne qui sera en concert ce samedi 14 août à 21h au Parc de Port-Breton. Orchestre de Bretagne que voici dans la musique d'un Breton, la musique de scène Œdipe à colonne de Guy Ropartz. D'après la tragédie grecque de Sophocle, Œdipe à Colone, c'était à l'instant la musique de scène que compose Guy Ropartz pour cet Œdipe à Colone, pardon, avec l'orchestre de Bretagne dirigé par Kirill Karabits.
À réécouter sur francemusique.fr.